Beaucoup d'icônes vénérées dans les différents sanctuaires de la Russie ont été retrouvées souvent d'une façon donc imprévue. Notre-Dame de Vladimir, Notre-Dame de Smolensk, Notre-Dame de Tikhvin. Ces découvertes sont ce qui correspond en Occident à nos apparitions. La Mère de Dieu apparaît dans les sanctuaires d'Occident et là, elle apparaît à travers ces redécouvertes de ces icônes.
Vous la connaissez, cette icône de Notre-Dame de Kazan? Vous l'avez vue personnellement?
J'ai même eu la joie de déjeuner avec le pape Jean-Paul II. C'était le 1er juillet de l'an 2000. Et après le déjeuner, nous avions été priés dans sa chapelle privée et il nous avait fait vénérer, bien sûr, cette icône.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous la décrire?
C'est une icône peinte sur bois. Elle était peinte à Byzance et donc attribuée même à Saint-Luc, l'original. Voyez. C'est le type d'icône qu'on appelle Notre-Dame de Tendresse. Parce qu'il y a deux grands genres d'icônes de la Mère de Dieu, celle qui montre le chemin, Odigitria, et l'autre, Notre-Dame de Tendresse. Et le visage de la Vierge Marie est toujours très proche du visage de son fils, donc ce geste de tendresse humiliée. Mais la spécificité de l'icône de Kazan, c'est la seule icône où on voit l'enfant Jésus debout dans les bras de sa mère.
C'est une icône très précieuse.
Ah oui, bien sûr. Et alors, dans l'histoire de la Russie, elle a joué un rôle important parce que partout, elle a opéré des miracles, des conversions, des protections surtout. Elle a été portée dans les champs de bataille au moment où Moscou était occupé par les Polonais. Et on lui attribue donc la grâce au fond d'avoir pu libérer Moscou de cette présence étrangère. Du temps de Pierre le Grand, alors au XVIIIe siècle, elle a été transférée solennellement à Saint-Pétersbourg, où une immense basilique a été construite, la cathédrale Notre-Dame de Kazan, au moment de la bataille de Borodino contre les troupes napoléoniennes en 1812. On la retrouve toujours donc utilisée comme un témoignage de la présence et de la protection de la Mère de Dieu. Ensuite, en 1904, elle a été volée pour réapparaître en 1917 dans une collection d'un Anglais. Et ensuite, elle a été achetée par un Américain qui en a fait le don à Notre-Dame de Fatima. Et c'est en 1993 que finalement, elle a été offerte à Jean-Paul II.
Vous avez remarqué combien Jean-Paul II donc est attaché à cette icône et combien ce geste de la rendre au patriarche Alexis II et au peuple russe est symbolique?
C'est vrai que c'est un symbole, c'est un geste. Et Jean-Paul II lui-même, comme la tradition des Slaves, sont très attachés à ces gestes, ces signes extérieurs de la grâce de Dieu à travers des signes visibles. Et donc, c'est évident que là, il a trouvé un point très important qui peut lui permettre de retrouver, faire un pont entre les traditions catholiques et puis les traditions orthodoxes. Ça rejoint un petit peu, je dirais, ce qui s'est passé il y a longtemps entre le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras, le premier geste de rapprochement l'un vers l'autre, mais ils ont choisi d'un commun accord de se donner rendez-vous à Jérusalem, comme le signe, le symbole de la rencontre dans le Christ. Et voilà pourquoi l'icône de la Mère de Dieu, et c'est le symbole, le signe aussi, que la réunion des chrétiens peut se faire précisément dans la tendresse de Marie, et que c'est en allant vers elle que nous pouvons nous retrouver enfants du même Père et que Marie peut être le point de rencontre, les chrétiens, en particulier catholiques et orthodoxes.